Les Misérables de Victor Hugo. Adapté par Hélène Bleskin. Réalisé par François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Premier épisode. En 1804, Monsieur Charles-François Bienvenu Myriel était curé de Brignoles et il vivait dans une retraite profonde. Vers l'époque du couronnement, une petite affaire de sa cure l'amena à Paris. Entre autres personnes puissantes, il alla solliciter pour ses paroissiens Monsieur le cardinal Fesch. Un jour que l'empereur était venu faire visite à son oncle, le digne curé qui attendait dans l'antichambre se trouva sur le passage de Sa Majesté. Napoléon, se voyant regarder avec une certaine curiosité par ce vieillard, se retourna.
Quel est cet homme qui me regarde ?
Sire, vous regardez un bonhomme et moi je regarde un grand homme. Chacun de nous peut profiter.
L'empereur, le soir même, demanda au cardinal le nom de ce curé et, quelque temps après, M. Myriel fut tout surpris d'apprendre qu'il était nommé évêque de Digne. Il arriva à Digne accompagné d'une vieille fille, Mademoiselle Baptistine, qui était sa sœur et qui avait 10 ans de moins que lui. Ils avaient pour tout domestique une servante appelée Madame Magloire. Pour donner une idée du ménage intérieur de M. l'évêque de Digne et de la façon dont ces deux saintes filles subordonnaient leurs actions aux intentions de l'évêque, nous ne pouvons mieux faire que de transcrire ici une lettre de Mademoiselle Baptistine à Madame la Vicomtesse de Boischevron, son amie d'enfance.
Ma bonne Madame, pas un jour ne se passe sans que nous parlions de vous. Je suis toujours bien heureuse, mon frère est si bon. Il donne tout ce qu'il a aux indigents, aux malades. Nous sommes très gênés. Le pays est dur l'hiver et il faut bien faire quelque chose pour ceux qui manquent. Nous sommes à peu près chauffés et éclairés. Vous voyez que ce sont de grandes douceurs. Figurez-vous que la porte de la maison n'est jamais fermée. Entre qui veut. Et l'on est tout de suite chez mon frère. Il ne craint rien, même la nuit. C'est là sa bravoure à lui, comme il dit. L'an dernier, il est allé tout seul dans un pays de voleurs. À son retour, il n'avait rien eu. On le croyait mort. Il se portait bien. Et il a dit « Voilà comment on m'a volé ». Et il a ouvert une malle pleine de tous les bijoux de la cathédrale d'Embrun que les voleurs lui avaient donnés.
À une époque un peu postérieure à la date de la lettre, il fit une chose, à en croire toute la ville, plus risquée encore que sa promenade à travers les montagnes des bandits. Il y avait près de Digne, dans la campagne, un homme qui vivait solitaire. Cet homme, disons tout de suite le gros mot, était un conventionnel. Il se nommait G. On parlait de lui avec une sorte d'horreur. Un conventionnel, vous figurez-vous cela, cela existait du temps qu'on se tutoyait et qu'on disait « citoyen ». Cet homme était à peu près un monstre. Il n'avait pas voté la mort du roi, mais presque, c'était un quasi-régicide. Pourtant, l'évêque songeait
« Il y a là une âme qui est seule, je lui dois ma visite ».
Un jour, le bruit se répandit dans la ville que le vieux scélérat se mourait. L'évêque prit son bâton et partit. Le soleil déclinait quand l'évêque arriva à l'endroit excommunié. C'était une cabane toute basse avec une treille clouée à la façade. Devant la porte, dans une vieille chaise à roulettes, fauteuil du paysan, il y avait un homme en cheveux blancs qui souriait au soleil.
Depuis que je suis ici, voilà la première fois qu'on entre chez moi. Qui êtes-vous, monsieur ?
Je me nomme Bienvenu Myriel.
J'ai entendu prononcer ce nom. Est-ce vous que le peuple appelle Monseigneur Bienvenu ?
C'est moi.
En ce cas, vous êtes mon évêque ?
Un peu. Je suis satisfait de voir qu'on m'avait trompé. Vous ne me semblez certes pas malade.
Monsieur, je vais guérir. Je mourrai dans 3 heures. Je suis un peu médecin. Je sais de quelle façon la dernière heure vient. Le soleil est beau, n'est-ce pas ? Je me suis fait rouler dehors pour jeter un dernier coup d'œil sur les choses. Vous faites bien de venir regarder un homme qui va mourir. Finir est une affaire simple. On n'a pas besoin du matin pour cela. Je mourrai à la Belle Étoile.
Je vous félicite. Vous n'avez toujours pas voté la mort du roi.
Ne me félicitez pas trop, monsieur.
Que voulez-vous dire?
Je ne me crois pas le droit de tuer un homme. J'ai voté la fin du tyran. C'est-à-dire la fin de la prostitution pour la femme, la fin de l'esclavage pour l'homme, la fin de la nuit pour l'enfant. En votant la République, j'ai voté la fraternité, la concorde, l'aurore. J'ai aidé à la chute des préjugés et des erreurs. Nous avons fait tomber le vieux monde, nous autres. Et le vieux monde, vase des misères, en se renversant sur le genre humain, est devenu une urne de joie.
Joie mêlée.
Vous pourriez dire joie troublée. Et aujourd'hui, après ce fatal retour du passé qu'on nomme 1814, joie disparue. Hélas, l'œuvre a été incomplète, j'en conviens.
Vous avez démoli. Démolir peut être utile, mais je me défie d'une démolition compliquée de colère.
Le droit a sa colère, monsieur l'évêque. Et la colère du droit est un élément du progrès. N'importe. Et quoi qu'on en dise, la Révolution française est le plus puissant pas du genre humain depuis l'avènement du Christ. Incomplète, soit, mais sublime. Elle a dégagé toutes les inconnues sociales. Elle a adouci les esprits, elle a calmé, apaisé, éclairé. Elle a fait couler sur la terre des flots de civilisation. Elle a été bonne. La Révolution française, c'est le sacre de l'humanité.
93.
Ah, nous y voilà. 93, j'attendais ce mot-là. Un nuage s'est formé pendant 1500 ans et il a crevé. Vous faites le procès au coup de tonnerre.
Le juge parle au nom de la justice. Le prêtre parle au nom de la pitié, qui n'est autre chose qu'une justice plus élevée. Un coup de tonnerre ne doit pas se tromper.
Je pleurerai sur les enfants des rois avec vous, pourvu que vous pleuriez avec moi sur les petits du peuple.
Je pleure sur tous.
Également. Et si la balance doit pencher, que ce soit du côté du peuple. Il y a plus longtemps qu'il souffre.
Le progrès doit croire en Dieu. Le bien ne peut pas avoir de serviteur impie. C'est un mauvais conducteur du genre humain que celui qui est athée.
Le vieux représentant du peuple ne répondit pas. Il eut un tremblement. Il regarda le ciel et une larme germa lentement dans ce regard.
Oh, toi. Ou idéal. Toi seul existe. L'infini est. Il est là. Si l'infini n'avait pas de moi, le moi serait sa borne. Il ne serait pas infini. En d'autres termes, il ne serait pas. Or, il est. Donc, il y a un moi. Ce moi, c'est l'infini. C'est Dieu.
Le mourant avait prononcé ces dernières paroles d'une voix haute et avec le frémissement de l'extase, comme s'il voyait quelqu'un.
Cette heure est celle de Dieu. Ne trouvez-vous pas qu'il serait regrettable que nous nous fussions rencontrés en vain?
Monsieur l'évêque, J'ai secouru les opprimés. J'ai soulagé les souffrants. J'ai déchiré la nappe de l'autel, c'est vrai. Mais c'était pour panser les blessures de la patrie. Après quoi, j'ai été chassé, traqué, raillé, maudit, proscrit. Je vais mourir. Qu'est-ce que vous venez me demander ?
Votre bénédiction.
Et l'évêque s'agenouilla. Quand il releva la tête, la face du conventionnel était devenue auguste. Il venait d'expirer. L'évêque rentra chez lui, profondément absorbé dans on ne sait quelle pensée. Il passa toute la nuit en prière. On risquerait fort de se tromper si l'on concluait de là que Monseigneur Bienvenu fût un évêque philosophique ou un curé patriote. Sa rencontre lui laissa une sorte d'étonnement qu'il rendit plus doux encore, voilà tout. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, une heure avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entrait dans la petite ville de Digne. Il était difficile de rencontrer un passant d'un aspect plus misérable. C'était un homme de moyenne taille, trapu et robuste, dans la force de l'âge. Il pouvait avoir 46 ou 48 ans. Une casquette à visière de cuir rabattue cachait en partie son visage brûlé par le soleil et le hâle et ruisselant de sueur. Il avait un pantalon de coutil bleu, râpé, une vieille blouse grise en haillons, sur le dos un sac de soldat fort plein et à la main un énorme bâton noueux. Il se dirigea vers une auberge qui était la meilleure du pays. L'hôte, entendant la porte s'ouvrir et entrer un nouveau venu, dit sans lever les yeux de ses fourneaux
« Que veut monsieur ?»«
Manger et coucher. » »«
Rien de plus facile ?»
L'hôte tourna la tête, embrassa d'un seul coup d'œil l'ensemble du voyageur et ajouta
« En payant ?»«
J'ai de l'argent. »
En ce cas, on est à vous.
Pendant que le nouveau venu se chauffait, dos tourné, le digne aubergiste écrivit une ligne et remit le chiffon de papier à un marmiton qui partit en courant dans la direction de la mairie. Le voyageur n'avait rien vu de tout cela.
Dîne-t-on bientôt ?
Tout à l'heure.
L'enfant revint. Il rapportait le papier. L'hôte le déplia avec empressement. Il fit un pas vers le voyageur.
Monsieur, je ne puis vous recevoir.
Je suis à l'auberge, j'ai faim et je reste.
Voulez-vous que je vous dise votre nom ? Vous vous appelez Jean Valjean, allez-vous-en.
Ce soir-là, monsieur l'évêque de Digne était resté assez tard enfermé dans sa chambre. Madame Magloire entra, selon son habitude, pour prendre l'argenterie dans le placard près du lit. Un moment après, l'évêque se leva de sa table et entra dans la salle à manger. Madame Magloire entretenait mademoiselle d'un sujet qui lui était familier, le loquet de la porte d'entrée. Elle avait entendu dire qu'un rôdeur de mauvaise mine serait arrivé, qu'il devait être quelque part dans la ville.
« Il se pourrait qu'il y ait de méchantes rencontres pour ceux qui s'aviseraient de rentrer tard chez eux cette nuit. » La police est bien mal faite du reste. Attendu que monsieur le préfet et monsieur le maire ne s'aiment pas et cherchent à se nuire. Je dis qu'il faut des verrous, ne serait-ce que pour cette nuit. Oh !
Entrez !
L'évêque fixait sur l'homme un œil tranquille.
Voici, je m'appelle Jean Valjean, je suis un galérien. Je suis libéré depuis 4 jours et en route pour Pontarlier, qui est ma destination. 4 jours que je marche depuis Toulon. Ce soir, j'ai été dans une auberge. On m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit « Frappe là ». J'ai frappé. Qu'est-ce que c'est ici ? Êtes-vous une auberge ? J'ai de l'argent. Voulez-vous que je reste ?
Madame Magloire, vous mettrez un couvert en plus.
Voilà mon passeport. Je sais lire, moi, j'ai appris au bagne. Il y a une école pour ceux qui veulent. Tenez, Jean Valjean, forçat libéré, est resté 19 ans au bagne. 5 ans pour vol avec effraction, 14 ans pour avoir tenté de s'évader 4 fois. Cet homme est très dangereux. Voilà. Tout le monde m'a jeté dehors. Voulez-vous me donner à manger, à coucher? Avez-vous une écurie?
Madame Magloire, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. Monsieur, asseyez-vous et chauffez-vous. Nous allons souper dans un instant.
Vrai? Vous me gardez? Vous ne me tutoyez pas? Va-t'en, chien, qu'on me dit toujours. Vous êtes un brave homme. Vous êtes aubergiste, n'est-ce pas?
Alors, je suis un prêtre qui demeure ici.
Ah, c'est vrai que je suis bête. Je n'avais pas vu votre calotte. Vous êtes humain, monsieur le curé. Vous n'avez pas de mépris. Vous n'avez pas besoin que je paye?
Non. Gardez votre argent. Combien avez-vous?
109 francs et 15 sous.
Et combien de temps avez-vous mis à gagner cela?
19 ans.
19 ans. Madame Magloire, mettez ce couvert le plus près possible du feu. Le vent de la nuit est dur dans les Alpes. Vous devez avoir froid, monsieur.
Chaque fois qu'il disait ce mot, monsieur, avec sa voix doucement grave, le visage de l'homme s'illuminait. Monsieur à un forçat, c'est un verre d'eau à un naufragé de la Méduse.
Voici une lampe qui éclaire bien mal.
Madame Magloire comprit, et elle alla chercher sur la cheminée de la chambre à coucher de Monseigneur les deux chandeliers d'argent qu'elle posa sur la table, tout allumés.
Monsieur le curé, vous êtes bon. Vous ne me méprisez pas. Vous me recevez chez vous?
Ce n'est pas ici ma maison, mais la maison de Jésus-Christ. Tout ce qui est ici est à vous. Qu'ai-je besoin de savoir votre nom? D'ailleurs, avant que vous ne me le disiez, vous en avez un que je savais.
Vrai? Vous saviez comment je m'appelle?
Oui, vous vous appelez mon frère.
Comme 2 heures du matin sonnaient à l'horloge de la cathédrale, Jean Valjean se réveilla. Il ne put se rendormir et il se mit à penser. Il avait une sorte de va-et-vient obscur dans le cerveau. Ses souvenirs anciens et ses souvenirs immédiats y flottaient pêle-mêle. Beaucoup de pensées lui venaient, mais il y en avait une qui se représentait continuellement et qui chassait toutes les autres. Il avait remarqué les 6 couverts en argent et la grande cuillère que Madame Magloire avait posée sur la table. À l'instant où il avait traversé la chambre d'à côté, la vieille servante les mettait dans un petit placard à la tête du lit. Jean Valjean écouta. Aucun bruit. Il poussa la porte. La chambre était dans un calme parfait. Il avança avec précaution. Au moment où il s'arrêta en face du lit, un rayon de lune vint éclairer subitement le visage pâle de l'évêque. Il dormait paisiblement. Toute sa face s'illuminait d'une vague expression de satisfaction, d'espérance et de béatitude. Jean Valjean n'avait jamais rien vu de pareil. Cette confiance l'épouvantait. Tout à coup, il ouvrit le placard, prit le panier d'argenterie, gagna la porte, rentra dans l'oratoire, enjamba l'appui du rez-de-chaussée, mit l'argenterie dans son sac, jeta le panier, franchit le jardin, sauta par-dessus le mur comme un tigre et s'enfuit. Le lendemain, au soleil levant, Monseigneur Bienvenu se promenait dans son jardin.
Monseigneur! Votre grandeur sait-elle où est le panier d'argenterie?
Voilà.
Très bien, rien dedans. Et l'argenterie?
C'est donc l'argenterie qui vous occupe? Je ne sais où elle est.
Un grand bon Dieu, elle est volée. C'est l'homme d'hier soir qui l'a volée.
Et d'abord, cette argenterie était-elle à nous? Madame Magloire, je détenais à tort et depuis longtemps cette argenterie. Elle était aux pauvres. Qu'est-ce que cet homme? Un pauvre, évidemment.
Quelques instants après, il déjeunait et il faisait gaiement remarquer à sa sœur qui ne disait rien et à Madame Magloire qui grommelait qu'il n'ait nullement besoin d'une cuillère ni d'une fourchette pour tremper un morceau de pain dans une tasse de lait.
Dans quoi Monseigneur va-t-il manger maintenant?
Est-ce qu'il n'y a pas des couverts en étain?
L'étain a une odeur.
Alors, des couverts de fer.
Le fer a un goût.
Eh bien, des couverts de bois.
Comme ils allaient se lever de table, on frappa à la porte. Trois hommes en tenaient un quatrième au collet. Les trois hommes étaient des gendarmes. L'autre était Jean Valjean.
Monseigneur?
Monseigneur.
Silence, c'est Monseigneur l'évêque.
Ah, vous voilà. Eh bien, je suis bien aise de vous voir, Jean Valjean. Mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts?
Ce que cet homme disait était donc vrai. Nous l'avons rencontré, il allait comme quelqu'un qui s'en va. Nous l'avons arrêté pour voir, il avait cette argenterie.
Et il vous a dit qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit. Moi, je vois la chose, c'est une méprise.
Comme cela, nous pouvons le laisser aller?
Sans doute.
Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse aller?
Oui, on te laisse. Tu n'entendons pas.
Mon ami, avant de vous en aller, voici vos chandeliers.
Il alla à la cheminée, prit les deux flambeaux d'argent.
Prenez-les.
Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il les prit machinalement et d'un air égaré.
Maintenant, allez en paix, messieurs. Vous pouvez vous retirer.
Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir.
N'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme.
Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit.
Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu.
C'était Les Misérables de Victor Hugo, adapté par Hélène Bleskin. Premier épisode.